Si vous venez au camp des adolescents, vous pourriez engager une conversation avec une jeune fille là-bas, tout en parlant de ce qu'elle aime faire. Elle est une artiste excellente. Elle aime monter à cheval et pratiquer d'autres activités. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'elle est relativement malvoyante. Elle n'est pas complètement aveugle, mais elle ne possède certainement pas la capacité de voir comme la plupart d'entre nous jouissent. Peut-être que certains d'entre vous qui êtes allés au camp savent de qui je parle. Le fait que vous ne sachiez pas qu'elle soit malvoyante n'est pas très grave. Mais je pense que si je vous expliquais sa situation, vous seriez intrigué et très impressionné par sa capacité à mener une vie tout à fait normale. Parfois, ce que nous ne savons pas peut être plus qu'intriguant. Cela peut être désastreux, voire fatal. Le 10 avril 1912, un navire a levé l'ancre à Southampton en Angleterre. Il a fait de brèves escales à Cherbourg en France et à Queenstown en Irlande, embarquant d'autres passagers au fur et à mesure de son voyage. Il met ensuite le cap à l'ouest, en direction de New York, dans le but de battre le record de la traversée la plus rapide de l'Atlantique. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il se dirigeait droit vers un iceberg. Tard dans la soirée du 14 avril 1912, le Titanic, le plus grand objet mobile construit par l'homme au monde, 269 mètres de long, 28 mètres de large et 53 mètres de haut, heurta un iceberg. Considéré comme insubmersible, pesant environ 46 000 tonnes, il était insubmersible. Il heurta un iceberg et, en moins de 3 heures, il coula à pic sur 3800 mètres jusqu'au fond de l'océan, soit 3,81 km pour être exact, et il a coulé en moins de 3 heures. 1500 personnes ont péri dans une eau à moins 2 degrés centigrades, l'une des plus grandes tragédies maritimes jamais enregistrées, tout cela à cause de ce qu'ils ne savaient pas. La question que je vous pose aujourd'hui est simple, mais j'espère que vous ne la prendrez pas à la légère. Quelle est votre attitude face à ce que vous ne savez pas? Est-ce le laisser-faire? Pas de souci? Ce que je ne sais pas ne peut pas me nuire? La méconnaissance est une bénédiction? Ce sont là les phrases et les philosophies auxquelles vous adhérez? Est-ce ainsi que vous envisagez ce que vous ne connaissez pas? C'est peut-être de la peur. Avez-vous peur de l'inconnu? Ou peut-être s'agit-il plutôt de ce que l'on pourrait appeler l'omniscience? Peut-être avez-vous l'impression d'en savoir beaucoup et, dans la plupart des situations, d'être pratiquement la personne la plus intelligente dans la pièce? Vous vous sentez assez à l'aise de parler de n'importe quel sujet, parce que, enfin, peut-être vous n'êtes pas omniscient, mais vous êtes assez sûr de ce que vous savez. Ce qui est l'autre extrémité du spectre. Ou peut-être s'agit-il de quelque chose de différent. Peut-être existe-t-il une autre attitude, meilleure attitude, face à ce que nous ne savons pas. Voici donc une question. Que devrait être l'attitude d'un disciple du Christ face à ce que nous ne savons pas? Que vous y réfléchissiez activement ou non, votre attitude face à ce que vous ne savez pas est importante. Cela peut même être une question de vie ou de mort. Alors, pour commencer, concentrons-nous sur notre attitude envers ce que nous ne savons pas au sujet de Dieu. Si vous souhaitez, écrivez simplement le titre « Ce que nous ne savons pas ». Pour illustrer ce point, commençons par les anciens Israélites. Je vais me concentrer principalement sur ce que nous ne savons pas de Dieu, mais nous pouvons appliquer cela à ce que nous ne savons pas de nous-mêmes, surtout à l'approche de la Pâque, n'est-ce pas? On nous dit de nous examiner nous-mêmes, non pas de pouvoir répéter ce que nous savons déjà. Je veux dire, bien sûr, nous nous occupons de cela, mais qu'est-ce que nous ne savons pas? Que voient les autres en nous que nous ne voyons pas nous-mêmes? Ce serait une question intéressante, n'est-ce pas? Que voit notre épouse ou notre mari, qui semble flagrant et évident, mais que nous ne voyons pas? Ce serait bien de le savoir, n'est-ce pas? Qu'est-ce que nous ne savons pas des autres? Cela aurait été utile pour Ève de savoir que Satan est un séducteur, n'est-ce pas? Cela n'aurait-il pas été utile? En d'autres termes, connaître les autres est une chose à laquelle nous pourrions réfléchir, mais pour l'instant, concentrons-nous sur ce que nous ne connaissons pas de Dieu. Commençons par les anciens Israélites, si nous nous reportons à Exode 6. Exode 6. Nous pouvons voir qu'il y avait beaucoup de choses qu'ils ne connaissaient pas au sujet de Dieu, même si son désir était qu'ils en viennent à le connaître. Par exemple, nous le voyons dans Exode 6, que Dieu préparait la voie pour que les Israélites sortent d'Égypte. Je vais m'arrêter un instant sur cette idée et commencer par Exode 6, verset 6. Alors qu'il commençait à travailler avec eux, il leur a dit au verset 6, « C'est pourquoi dis aux enfants d'Israël, « Je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchis des travaux dont vous chargent les Égyptiens. » Plus loin dans Exode 7, versets 4 et 5, nous lisons ce que Dieu dit à Moïse. Verset 4. « Pharaon ne vous écoutera point. Je mettrai ma main sur l'Égypte, et je ferai sortir du pays d'Égypte mes armées, mon peuple et les enfants d'Israël par de grands jugements. » Verset 5. « Les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel lorsque j'étendrai ma main sur l'Égypte et que je ferai sortir du milieu d'eux les enfants d'Israël. » Puis, un peu plus bas, au verset 17, nous lisons que Dieu commence à faire venir les plaies sur l'Égypte. Verset 17, ainsi parle l'Éternel, « À ceci tu connaîtras que je suis l'Éternel. Je vais frapper les eaux du fleuve avec la verge qui est dans ma main, et elles seront changées en sang. » Exode 8, verset 16. Exode 8, verset 16. L'Éternel dit à Moïse, « Lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Il sortira pour aller près de l'eau. Tu lui diras, ainsi par l'Éternel, « Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. » Poursuivons au verset 18. « Mais en ce jour-là, je distinguerai le pays de Gozen où habite mon peuple. Et là, il n'y aura point de mouche, afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. » Il semble que Dieu veuille faire comprendre au Pharaon et au peuple d'Israël qu'il veut qu'il sache qui il est. Il veut qu'il sache qu'il est le Dieu qui accomplit tout cela. Cela ne se produit pas par le biais d'un phénomène naturel, quelque chose qui arrive avec les vents ou les pluies, ou par certaines inondations ou un tremblement de terre. Ce n'est pas naturel. C'est lui qui accomplit ces choses. C'est lui qui les a fait sortir. Dans Exode 10, verset 1, nous lisons, « L'Éternel dit à Moïse, « Va vers Pharaon, car j'ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs pour faire éclater mes signes au milieu d'eux. C'est aussi pour que tu racontes à ton fils, pas seulement à Pharaon, mais aux oreilles de ton fils et aux fils de ton fils, comment j'ai traité les Égyptiens et quels signes j'ai fait éclater au milieu d'eux. » Pourquoi? Et vous saurez que je suis l'Éternel. Mais à maintes reprises, ils l'ont renié. Ils l'ont déshonoré. Ils ont profané ce qu'ils considéraient et avaient établi comme pur et bon. Ils lui résistèrent. Ils l'ont remodelé selon ce qu'ils croyaient savoir de Dieu. Allons à Exode 32. Nous avançons dans le récit et nous lisons dans Exode 32 au verset 1. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. » Nous ne savons pas où se trouve ce représentant de Dieu, celui qui nous a sauvés, qui nous a aidés. Nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. Il savait où il était. Il ne voulait tout simplement pas croire que Dieu agissait avec lui et lui donnait des instructions. Nous voyons au verset 2, Aaron leur dit, « Ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes et de vos fils et de vos filles et apportez-les-moi. » Verset 3, « Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et ils les apportèrent à Aaron, et il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en métal fondu. » Et ils dirent, « Israël, voici ton Dieu. » En gros, ils ont renié Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Verset 5. Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui, et il s'écria, « Demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. » Et personne n'a dit, « Ce n'est pas le Dieu que je connais. Ce n'est pas le Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. C'est le Dieu veau d'Égypte. » Personne ne dit ce qu'ils auraient dû savoir, bien qu'il se fût révélé à eux par de grandes œuvres. Il avait ouvert la mer Rouge. Il avait parlé depuis le mont Sinaï. Il s'était identifié lui-même, comme nous le lisons dans Exode 20. Reportons-nous à Exode 20 et au verset 1. Exode 20 et le verset 1. Alors Dieu prononça toutes ces paroles au mont Sinaï, en disant, « Je suis l'Éternel ton Dieu, c'est moi qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Je me suis révélé à vous afin que vous me connaissiez, que vous sachiez qui s'occupe de vous, qui œuvre avec vous. » Malgré tout cela, il ne connaissait pas Dieu. Il ne voulait pas apprendre. Nous lisons le récit de la goutte d'eau qui fit déborder le vase dans Nombre 13, Nombre 13, versets 26 à 28. Nombre 13, versets 26 à 28. Après le retour des espions du pays de Canaan, donc au bout de 40 jours, le verset 26 nous dit, « À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron, et toute l'assemblée des enfants d'Israël, de Kadès dans le désert de Paran, ils firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent les fruits du pays. » Verset 27. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. « Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. » Et là, c'est le clou. Verset 28. « Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Et nous y avons vu des enfants d'Anak. » Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Dieu avait un plan pour cela, tout comme pour la traversée de la mer Rouge, tout comme lorsqu'il a fait jaillir de l'eau en terre aride, et tout comme lorsqu'il a fait descendre de la manne du ciel. Ils ne savaient pas que Dieu allait raser les murs imprenables de Jéricho à l'entrée du pays. Ils ne savaient pas que Dieu allait littéralement arrêter le soleil. Reportons-nous à Josué chapitre 10. Josué chapitre 10. Et le verset 12. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, « Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. » Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation ait tiré vengeance de ses ennemis. Ils ne savaient pas cela. Ils ont sciemment oublié ce que Dieu avait dit qu'il ferait. Revenons à Exode 23. Exode 23. Exode 23, verset 27. Voyez, Dieu leur avait dit, « J'enverrai ma terreur devant toi. Lorsque vous entrerez dans le pays, je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras, et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. J'enverrai les frelons devant toi. » Je n'y avais pas pensé, mais c'est là le Dieu qui se révélait à eux de mille façons. Et il a dit, « J'enverrai les frelons devant toi, et ils chasseront loin de ta face les Éviens. Je pense que c'est intéressant de voir des frelons qui chassent les éviens. Mais ce n'est que mon idée. Peut-être pas tout le monde fait ce lien. Verset 28. Les Cananéens et les Éthiens, je ne les chasserai pas en une seule année, loin de ta face, de peur que le pays ne devienne désert et que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Je les chasserai peu à peu loin de ta face, jusqu'à ce que tu augmentes en nombre et que tu puisses prendre possession du pays. Ils ont sciemment choisi d'oublier. Ils n'étaient pas disposés à écouter ni à comprendre. Ils n'ont pas demandé à Dieu, « Que vas-tu faire? Que peux-tu faire pour nous aider? » Au lieu de cela, ils ont dit, « Non, nous pensons avoir trouvé la solution. » En conséquence, ils sont morts dans le désert. Malheureusement, des années plus tard, alors qu'ils étaient en guerre, si nous nous reportons à 1 Samuel 4, nous voyons dans 1 Samuel 4, quand ils bataillaient contre les Philistins, nous voyons à nouveau ce qu'ils pensaient savoir de Dieu. Dans 1 Samuel 4. Nous lisons au début du chapitre, 1 Samuel 4, verset 1. Israël sortit à la rencontre des Philistins pour combattre. Ils campaient près d'Eben-Ézer, et les Philistins campaient à Aphek. Les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël, et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins, qui tuèrent sur le champ de bataille environ 4000 hommes. Le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent, « Pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Allons chercher à Silo, l'arche de l'Alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. » Le peuple envoya des messagers à Silo, d'où l'on apporte l'arche de l'Alliance de l'Éternel des armées qui siège entre les chérubins. Les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, étaient là avec l'arche de l'Alliance de Dieu. Lorsque l'arche de l'Alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa un grand cri de joie et la terre en fut ébranlée. Ils pensaient que Dieu était un Dieu que l'on pouvait manipuler, contraindre, forcer à agir, traiter avec superstition. Et ils amenèrent Dieu au combat avec eux. Mais leur Dieu, je dirais, puisqu'ils le traitaient avec superstition, fut amené captif, parce qu'ils ne connaissaient pas vraiment Dieu. Ils pensaient le connaître. Ils étaient convaincus de connaître Dieu et qu'il était de leur côté. Poursuivons, 1 Samuel 4, verset 6. Le retentissement de ces cris fut entendu des Philistins, et ils dirent, « Que signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des Hébreux? » Et ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp. Les Philistins eurent peur, parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. Ils étaient habitués à ce genre d'imagerie. Ils croyaient à un dieu des montagnes, à un dieu des bois, à un dieu de la forêt, à un dieu de ceci, un dieu de cela, à un dieu d'une ville qui était un dieu particulièrement en vogue à cette époque. Historiquement, par exemple en Inde, d'après ce que j'ai lu et appris, dans l'hindouisme, il pouvait y avoir un dieu qui était populaire pendant un certain temps, puis après quelques générations, un autre dieu devenait plus populaire. Une fois, je faisais une randonnée dans le nord de la Thaïlande, dans les collines de la région. Nous n'étions que quelques-uns avec un guide, et nous sommes arrivés dans ce petit village alors que la nuit tombait. Le petit endroit, la petite hutte, où nous allions passer la nuit, nous avait accueilli. Le chef du village, qui était là, dans la hutte, nous avait accueilli. Il était très sympathique et tout. Mais la nuit commençait à tomber, alors nous avons pris un petit repas là-bas, et nous avons regardé autour de nous, et le type avait disparu. Nous avons donc demandé à notre guide, « Où est passé cet homme, le maître de la maison, le chef du village? » Il a répondu, « Oh, il sacrifie un cochon au dieu de la jungle ce soir. » « D'accord. » Et il va revenir ici pour dormir dans la même hutte et tout le reste. Je dois dire que cela nous met un peu mal à l'aise. C'est très, très étrange. Mais c'est de l'histoire ancienne. Le fait d'attribuer un pouvoir superstitieux à quelque chose de physique, d'une certaine manière, c'est exactement ce qu'il faisait. Il pensait connaître Dieu. Mais ce n'était pas le cas. Et ils sont morts au combat, et Dieu laissa cela arriver. De nombreuses années plus tard, nous lisons dans Jérémie 7. « De nombreuses générations plus tard, dans Jérémie 7, versets 1 à 20, Jérémie 7, verset 1, la parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots, « Place-toi à la porte de la maison de l'Éternel, et là, publie cette parole, et dis, écoutez la parole de l'Éternel, vous tous, hommes de Juda, qui entrez par ces portes pour adorer l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Réformez vos voies et vos œuvres, et je vous laisserai demeurer dans ce lieu. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses en disant, c'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Si vous réformez vos voies et vos œuvres, si vous pratiquez la justice envers les uns et les autres, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne répandez pas en ce lieu le saint innocent, et si vous n'allez pas après d'autres dieux pour votre malheur, en indiquant que vous me connaissez, que vous venez ici pour m'adorer, vous ne me connaissez pas, dit-il. Verset 7, alors je vous laisserai demeurer dans ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères, d'éternité en éternité, mais voici, vous vous livrez à des espérances trompeuses, qui ne servent à rien. Quoi? Dérober, tuer, commettre des adultères, jurer faussement, offrir de l'encens à Baal, aller après d'autres dieux que vous ne connaissez pas, puis vous venez vous présenter devant moi dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué et vous dites, « Nous sommes délivrés, et c'est afin de commettre toutes ces abominations. En d'autres termes, nous n'avons pas le choix. Nous ne pouvions pas nous en empêcher. » Continuons au verset 11. « Est-elle à vos yeux une caverne de voleurs? Cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, je le vois moi-même, dit l'Éternel. Allez donc au lieu qui m'est consacré à Silo, dont nous venons de parler, où j'avais fait autrefois résider mon nom, et voyez comment je l'ai traité à cause de la méchanceté de mon peuple d'Israël. Et maintenant, puisque vous avez commis toutes ces actions, dit l'Éternel, puisque je vous ai parlé dès le matin et que vous n'avez pas écouté, puisque je vous ai appelé et que vous n'avez pas répondu, dès le début, lorsque Dieu a commencé à travailler avec Israël en tant que nation, il voulait qu'ils le connaissent. Il a mis tous les efforts pour se révéler à eux, afin qu'ils le connaissent. Il dit au verset 13, « Je vous ai appelé et que vous n'avez pas répondu. Puisque je vous ai appelé et que vous n'avez pas répondu, je traiterai la maison sur laquelle mon nom est invoqué, sur laquelle vous faites reposer votre confiance, et le lieu que j'ai donné à vous et à vos pères, de la même manière que j'ai traité Silo, et je vous rejetterai loin de ma face, comme j'ai rejeté tous vos frères, toute la postérité d'Éphraïm. » Il poursuit dans la même veine pour le reste du chapitre. Il dit même à Jérémie, au verset 16, « Et toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple, ne lève pas pour eux ni supplication ni prière, ne fais pas des instances auprès de moi, je ne les écouterai pas. Il est trop tard, il est trop tard. J'ai fait preuve de miséricorde. Je me suis révélé. Je me suis expliqué. J'ai cajolé, guidé et instruit, dit-il. Le moment est venu de passer à la phase suivante. Je vais leur permettre, en fait, je vais faciliter, je permettrai qu'ils aillent en captivité à ce stade. Poursuivons. Jérémie 7, verset 17. Ne vois-tu pas ce qu'ils font dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem? Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu, les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux à la reine du ciel et pour faire des libations à d'autres dieux afin de mériter. Est-ce moi qu'ils héritent, dit l'Éternel? N'est-ce pas eux-mêmes à leur propre confusion? Ils ne font que se nuire à eux-mêmes? Verset 20. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, ma colère et ma fureur se répandent sur ce lieu, sur les hommes et sur les bêtes, sur les arbres des champs, sur les fruits de la terre, elle brûlera et ne s'éteindra point. Vous pouvez lire la suite du chapitre, il continue dans cette même veine. Reportons-nous à Jérémie 2. Jérémie chapitre 2. Il tient les sacrificateurs en partie responsables. Alors qu'il poursuit son réquisitoire contre Israël, il dit dans Jérémie 2, versets 7 et 8, « Je vous ai fait venir dans un pays semblable à un verger, pour que vous en mangiez les fruits et les meilleures productions. Mais vous êtes venus, et vous avez souillé mon pays, et vous avez fait de mon héritage une abomination. Les sacrificateurs n'ont-ils pas dit « Où est l'Éternel? » Les dépositaires de la loi ne m'ont pas connu. Les pasteurs m'ont été infidèles, les prophètes ont prophétisé par Baal, et ils sont allés après ceux qui ne sont d'aucun secours. Allons à Jérémie chapitre 9. Jérémie chapitre 9, les versets 1 à 3. Jérémie 9, verset 1. Oh, si ma tête était de l'eau, si mes yeux étaient une source de larmes, c'est là le chagrin que Dieu éprouvait face au refus d'Israël de le connaître, de lui obéir et de ne faire qu'un avec lui, d'être en harmonie avec lui. Verset 2. Oh, si j'avais au désert une cabane de voyageurs, j'abandonnerais mon peuple, je m'en éloignerais. Car ce sont tous des adultères, c'est une troupe de perfides. Verset 3. Ils ont la langue tendue comme un arc, et ils lancent le mensonge. Ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants dans le pays. J'aime la façon dont cela résonne en anglais, « vaillant pour la vérité ». En fait, ils ne connaissent pas la vérité, ils méprisent la vérité. Verset 3. Car ils vont de méchanceté en méchanceté, ils ne me connaissent pas, dit l'Éternel. Ésaïe 1. Ésaïe parle, écrit et prêche également sur le même sujet. Ésaïe 1, verset 10. Verset 10. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorre. Il les appelle par ce qu'ils étaient. Verset 11. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel? Je suis rassasié des holocaustes, des béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Il leur fait comprendre que ce qu'ils croyaient être la connaissance de Dieu, toute cette attirail de culte, était en réalité devenue une superstition. Il dit, « Ce n'est pas ce que je voulais. Vous êtes passés à côté de l'essentiel. Vous ne me connaissez pas à travers toutes ces choses que vous faites. Vous êtes passés complètement à côté de l'essentiel. » Et c'est l'un des fils conducteurs de la Bible, et cela se poursuit dans le Nouveau Testament. Allons à Tite. Le livre de Tite, presque à la fin de la Bible, nous voyons dans Tite 1, verset 5, que Paul dit, Tite 1, verset 5, « Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que, selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. » Il poursuit en parlant de l'importance d'établir l'ordre et ceux qui serviraient. Et il dit dans Tite 1, verset 10, il y a, en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs, ceux qui devraient mieux savoir, ceux parmi les Juifs qui ont un héritage juif. Verset 11, auquel il faut fermer la bouche, ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce que l'on ne doit pas enseigner. L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit, « Crée-toi, toujours menteur, méchante bête, ventre paresseux. Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine, et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Ils professent connaître Dieu, mais ce n'est pas le cas, comme le révèlent leurs actions. À travers les âges, tant de gens ont cru connaître Dieu, mais en réalité, ils étaient volontairement ignorants. Allons à Romains 1. Où nous voyons une caractéristique de l'histoire humaine, Romains 1 et le verset 18. Romains 1, verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, et sont donc inexcusables. Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Verset 23. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. L'humanité a choisi d'ignorer la révélation de Dieu sur Dieu. Depuis le Jardin d'Éden, et l'humanité a remodelé Dieu à son image. Cela vaut non seulement pour ceux dont la culture s'est éloignée de toute connaissance de Dieu dès le tout début de l'histoire humaine, mais aussi pour les Juifs qui ont rejeté et défié le Christ. Reportons-nous à Jean 7. Jean 7. Pas seulement ceux qui ont été coupés de la révélation de Dieu très tôt dans l'histoire humaine, mais même ceux avec qui Dieu agissait directement, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Jean 7, verset 25. Jean 7, verset 25. Quelques habitants de Jérusalem disaient, « N'est-ce pas là celui qu'ils cherchent à faire mourir? » Et voici, ils parlent librement et ils ne lui disent rien. Est-ce que vraiment les chefs auraient reconnu qu'il est le Christ? Verset 27. Cependant, celui-ci, nous savons d'où il est, mais le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. Et Jésus enseignait dans le temple, s'écria, vous me connaissez, et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai, et vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais, car je viens de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. Des paroles puissantes, des paroles audacieuses, très claires, énonçant qui il était et comment il accomplissait les prophéties. Mais ils ont choisi de ne pas l'accepter. Ils ont choisi de l'ignorer. Tournons maintenant les projecteurs sur nous-mêmes. Nous avons parcouru les passages des Écritures qui montrent la propension de l'homme, son refus de connaître Dieu, même lorsque Dieu lui tend la main. Nous pourrions lire, comme vous pouvez l'imaginer, si vous y réfléchissiez, et faisiez une étude à ce sujet, nous pourrions lire des dizaines de passages dans la Bible sur la manière dont Dieu a cherché à se révéler, afin qu'il, en particulier parmi le peuple de Juda, le connaisse. Pourtant, encore et encore, ils lui ont tourné le dos. Ils l'ont défié. Ils se sont rebellés contre lui. Donc, tournons les projecteurs sur nous-mêmes et voyons comment cela s'applique à nous. Reportons-nous à Job 36. La vérité est que, en tant qu'être humain insignifiant, ce que nous savons et comprenons de Dieu n'est en réalité qu'une fraction de la réalité. Lisons un petit passage de Job. Je pense qu'il est un bon type, pourrait-on dire, un bon représentant de nous-mêmes? Comme ce que nous pourrions penser alors qu'il traverse des épreuves. Job 36, verset 22. Voici, Dieu est grand. En fait, je prends un peu de recul. C'est une déclaration intéressante d'Élihu ici. Et voici ce qu'il dit à propos de Dieu. Verset 22. Voici, Dieu est grand par sa puissance. Qui serait enseigné comme lui? Verset 23. Qui lui prescrit ses voies? Qui ose dire, tu fais mal? Verset 26. Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. Le nombre de ses années est impénétrable. Il attire à lui les gouttes d'eau. Il poursuit en décrivant Dieu. Le fait est qu'il reconnaît que nous sommes petits, frêles, insignifiants. Et il dit donc, nous ne pouvons pas naturellement, tout comme la petite fourmi que nous sommes, nous ne pouvons pas comprendre un être qui a créé toutes choses seulement par notre mentalité naturelle, irréfléchie et peu attentive. Nous pouvons comprendre cela. Je pense que nous pouvons tous l'accepter. Mais où cela nous mène-t-il ensuite? Est-ce qu'on se dit inconsciemment, hein? Bon, d'accord, je crois qu'il y a un Dieu, et ça me suffit. Ça me va, c'est réglé. Je vais vaquer à mes occupations sans m'en soucier davantage. Est-ce que nous abordons la question de cette manière, sans vraiment nous intéresser à autre chose qu'une simple reconnaissance du fait qu'il y ait un Dieu? Et nous en restons là? Ou, dans l'autre extrémité du spectre, sommes-nous plutôt satisfaits de connaître Dieu assez bien et de l'avoir assez bien cerné? En substance, nous ne sommes pas vraiment intéressés à en savoir plus sur Dieu parce que nous savons déjà tout. Ainsi, lorsque des brochures ou des articles destinés à nous faire découvrir le Dieu que nous pouvons connaître sont publiés, peut-être bâillons-nous inconsciemment en pensant, « Eh bien, je sais déjà tout cela. Alors, vraiment? » Nous avons ici, dans ce livre, un exemple très frappant d'un homme très pieux, nommé Job. Un homme qui, de la vie générale, avait vraiment tout pour lui. Même Dieu le complimentait. Mais au fur et à mesure que l'histoire se déroule dans Job 7, nous commençons à voir que la patience de Job envers Dieu s'amenuise. Et puis dans Job 7, Job commence à demander « Pourquoi? Pourquoi me fais-tu cela? » Job 7, et nous débuterons au verset 11. Ou le verset 11. « C'est pourquoi je ne retiendrai point ma bouche. Je parlerai dans l'angoisse de mon cœur, je me plaindrai dans l'amertume de mon âme. Suis-je une mer ou un monstre marin, pour que tu établisses des gardes autour de moi? Quand je dis « mon lit me soulagera, ma couche calmera mes douleurs », c'est alors que tu m'effraies par des songes. C'est lui qui s'adresse à Dieu, au fait, d'accord? Souvenez-vous-en, simplement. Comme je l'ai dit, il commence à exprimer son impatience envers Dieu. Que tu m'épouvantes par des visions, verset 15. Ah, je voudrais être étranglé, je voudrais la mort plutôt que ses os, je déteste ma vie. Il est assez poétique dans ses descriptions, n'est-ce pas? Je ne vivrai pas toujours, laisse-moi, car ma vie n'est qu'un souffle. Qu'est-ce que l'homme pour que tu en fasses tant de cas, pour que tu daignes prendre garde à lui, pour que tu le visites tous les matins, pour que tu l'éprouves à tous les instants? Quand cesseras-tu d'avoir le regard sur moi? Quand me laisseras-tu le temps d'avaler ma salive? Si j'ai péché, qu'ai-je pu te faire, gardien des hommes? Pourquoi me mettre en butte à tes traits? Pourquoi me rendre à charge à moi-même? Que me pardonneras-tu mon péché et que n'oublieras-tu mon iniquité? Car je vais me coucher dans la poussière. Tu me chercheras diligemment, et je ne serai plus. Un peu dramatique, ne trouvez-vous pas? « Très bien, je vais disparaître pour que tu ne puisses plus t'en prendre à moi, Dieu. » Nous voyons bien que même un homme juste, comme vous ou moi, peut avoir des angles morts. Nous pouvons manquer de recul. Nous pouvons avoir une image incomplète de Dieu. Il nous manque des pièces du puzzle pour vraiment le connaître. Car connaître véritablement Dieu exige une attitude d'humilité, non seulement sur le moment, mais à travers chaque expérience. Reportons-nous au psaume 25. Psaume 25. « Psaume 25, nous y trouvons une attitude différente. David dit au verset 1, « Éternel, j'élève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. » Et il ajoute, verset 4, « Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. » En d'autres termes, aide-moi à mieux te connaître. Aide-moi à savoir ce que tu veux que je fasse. Aide-moi à connaître ta pensée. Il dit au verset 6, « Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde à cause de ta bonté, ô Éternel. » Nous ne savons pas ce que Dieu fait dans nos vies à chaque instant. Lorsque nous souffrons, lorsque nous sommes découragés, anxieux ou effrayés, nous pouvons avoir du mal à vraiment connaître Dieu, à vraiment lui faire confiance, à le rechercher, à le comprendre et à saisir ce qu'il attend de nous. C'est ça, connaître Dieu, n'est-ce pas? C'est ça, connaître Dieu. Lorsque Job était en difficulté, Dieu lui a rappelé qui il, Dieu, était. Et il a dit, « Refaisons connaissance, Job. » Revenons donc à Job et lisons le chapitre 38 du livre de Job. Job 38 et le verset 1. Verset 1. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, « Qui est celui-ci qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Saint et rein comme un vaillant homme. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions, le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ses bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie? Qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'élança du sein maternel, quand je fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses langes, quand je lui ai imposé ma loi et que je lui ai mis des barrières et des portes, quand je dis « Tu viendras jusqu'ici et tu n'iras pas au-delà, et ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués? Pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte et qu'elle soit parée comme un vêtement? Pour que les méchants soient privés de leur lumière et que le bras qui se lève soit brisé? As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? T'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme? Les portes de la mort t'ont-elles été ouvertes? As-tu vu les portes de l'ombre de la mort? As-tu embrassé du regard l'étendue de la terre? Parle si tu sais toutes ces choses. » Ainsi, Dieu renoua avec Job. Il se présenta à nouveau à Job. Accordons-nous de l'importance à l'apprentissage continu de Dieu, à l'apprentissage de ce que nous ne savons pas, surtout lorsque nous avons des questions sur la vie. Pourquoi est-ce que je souffre ainsi? Pourquoi mon corps commence-t-il à avoir cet aspect ou à me faire ressentir cela? Ou pourquoi ai-je perdu cet être cher? Ou pourquoi ai-je du mal à gérer les angoisses de la vie? C'est dans ces moments-là que nous avons vraiment, vraiment besoin d'approfondir notre quête et de la raviver avec un désir insatiable de connaître Dieu, d'en apprendre davantage, de comprendre, de continuer à poser des questions, de nous tourner vers Lui pour qu'Il nous guide, même si cela prend du temps, encore et encore. Car notre attitude ne se mesure pas à l'heure, au moment ou même à la journée. Ce que Dieu a prévu, c'est que notre esprit, notre attitude, nous porte jusqu'au bout. Si nous savons qui est Dieu, ce qu'il est, quelle est sa volonté pour nous. Et nous avons vu en étudiant l'ancien Israël, nous observons la situation d'en haut et nous voyons qu'ils ont manqué ce qu'il leur réservait. Ils l'ont manqué, nous pouvons le voir. C'est évident parce que nous le regardons de notre point de vue, mais eux, ils ne l'ont pas vu. Ils n'ont pas écouté. Ils n'avaient pas ce désir insatiable de se rapprocher de lui. Ils se sont laissés détourner. J'ai appris quelque chose cette semaine. Je regardais une vidéo que j'avais d'ailleurs montrée aux élèves de l'éducation vivante ce matin. Elle traite du concept de beauté et de la façon dont nous avons, en tant qu'êtres humains, intégré en nous un concept de beauté qui est en réalité lié à un rapport particulier. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce rapport. C'est un rapport appelé le nombre d'or, et on le retrouve partout dans la création, qu'il s'agisse d'un coquillage ou même des proportions d'un visage. Les artistes le savent, ils l'appliquent. Cela va jusque dans la façon dont le double hélice de notre ADN est formé. On l'appelle, encore une fois, le nombre d'or. Et il se traduit par un rapport de 1 à 1,618. C'est un rapport que l'on retrouve partout dans la création et que l'on reconnaît instinctivement comme étant juste, beau ou proportionné. C'est fascinant. Si vous souhaitez approfondir le sujet, recherchez la règle d'art des proportions dans la beauté. Comment cela s'est-il produit? Quand on regarde cette petite vidéo, on a l'impression que cela s'est fait tout seul. C'est simplement quelque chose qui fait partie de notre cerveau. Mais quelles sont les étapes de ce processus? Depuis l'absence totale de proportions jusqu'à l'apparition de proportions, comment cela fonctionne-t-il et comment cela se produit-il dans toute la création? Les fleurs, les plantes et la beauté que nous reconnaissons, y compris en musique. Nous écoutions de la musique. Et c'est à cela que je pensais au début. Nous écoutions de la musique, et ce ne sont que des ondes sonores, mais ces ondes sonores sont conçues par Dieu pour être belles et agréables à nos oreilles, dans le cadre de sa création. Donc, en fin de compte, si nous reconnaissons la beauté, nous reconnaissons Dieu comme le Créateur. D'ailleurs, vous savez qu'il peut y avoir des harmoniques. Lorsque certaines notes sont jouées, les vibrations produisent des sons que l'oreille perçoit, mais qui ne sont pas là, et qui créent un son encore plus beau. D'où cela vient-il? Y réfléchissons-nous, ainsi qu'à tout ce que nous pouvons apprendre en permanence? Si nous désirons connaître Dieu, les preuves de son existence et l'expression de sa présence sont partout autour de nous. Si nous y prêtons attention, si ça nous est égal, on continue notre petit bonhomme de chemin. Moins on en sait, peut-être mieux on se porte. Si nous pensons tout savoir et que nous ne sommes pas intéressés parce que nous avons tout ce dont nous avons besoin dans notre petit sac de connaissances, c'est la même chose. Nous n'apprenons pas vraiment à connaître Dieu parce que nous pensons déjà avoir tout compris. Dans Jérémie chapitre 9, Jérémie 9. Jérémie 9 et le verset 13. Dans les versets précédents, il réprime Juda. Verset 13, l'Éternel dit, « C'est parce qu'ils ont abandonné ma loi que j'avais mise devant eux, parce qu'ils n'ont point écouté ma voix et qu'ils ne l'ont point suivie. » Le verset 14 déclare, « Parce qu'ils ont suivi les penchants de leur cœur et qu'ils sont allés après les Baals, comme leur père le leur ont appris. » Ils ne cherchent donc pas à en savoir plus sur moi. Ils sont davantage intrigués par toutes les autres connaissances qui existent, dont beaucoup sont en réalité vides de sens. Cela ressemble à notre époque, n'est-ce pas? Il y a ce flot incessant de connaissances qui déferle sur nous. Cela peut finir par devenir un brouillard, car il est constamment là. Si nous voulons pouvoir concentrer notre attention sur Dieu, car en un sens, ce dont je parle vraiment, c'est de faciliter l'étude de la Bible, la prière et la méditation. Si cela est étouffé par tout le reste, alors honnêtement, nous perdons la capacité de mieux connaître Dieu chaque jour à travers cette étude de la Bible, la prière, la méditation, la réflexion et la contemplation, et en demandant à Dieu, aide-moi à te connaître, aide mon esprit à refléter le tien, afin que même mon attitude soit celle de désirer penser comme toi. Plutôt que dois-je faire ou où dois-je être pour pouvoir obtenir tes faveurs? Une approche minimaliste de Dieu ne fonctionnera pas pour nous. Nous voyons qu'en fin de compte, pour l'ancien Israël, cela s'est réduit à simplement se demander « Que dois-je faire? » et finalement à associer cette chose à d'autres dieux. Et nous voyons où cela a mené. Jérémie 9 et le verset 23, « Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Si nous connaissons Dieu et nous savons qu'il est un Dieu qui fait preuve de bonté lorsque nous traversons ces moments difficiles, nous savons qu'il est avec nous et qu'il nous aide. Si nous ne connaissons pas Dieu, sa bienveillance ne figurera même pas sur notre radar, mais au contraire, nous serons submergés par notre propre frustration. Mais si nous connaissons Dieu, tout comme nous connaissons notre père, notre mère ou un ami proche, nous savons que nous n'avons pas à nous inquiéter, car ils seront là. Je ne sais pas si j'avais 9 ou 10 ans, c'était sûrement en 4e ou 5e année, possiblement. Nous vivions en Géorgie. Un automne, nous étions partis chasser le cerf dans le sud de la Géorgie. Nous avions une Jeep. Et nous avons roulé quelques kilomètres depuis notre campement. Mon père m'a installé dans un arbre, un vieux chêne massif, et m'a dit « Assieds-toi là ». J'avais ma carabine de calibre 22, et si l'on touche un cerf au bon endroit, cela permet de l'abattre. Bref, il m'a dit « Je reviendrai avant la tombée de la nuit », et il est parti. J'entendais la Jeep s'éloigner au loin sur cette route forestière, vroom, 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 vroom. C'était l'une de ces Jeep International Harvester. Je ne sais pas si certains d'entre vous se souviennent de ces vieilles International Harvester cabossées. J'entendais la Jeep disparaître en descendant la colline, en remontant la colline au loin, puis elle disparut. En fin d'après-midi, j'étais donc assis le dos à l'arbre avec ma carabine et je me suis rapidement endormi. Un cerf aurait pu passer juste à mes pieds et je ne m'en serais même pas rendu compte. J'étais complètement endormi. Quand je me suis réveillé, le soleil se couchait. Il commençait à faire un peu sombre. À ce moment-là, on commence à voir des choses. Je ne savais pas trop si c'était un cerf ou ce qui se passait. On entend un petit écureuil ou quelque chose comme ça, et on ne sait pas trop si c'est peut-être une personne ou un cerf. Mais à mesure que la nuit tombait, il n'était pas là. Il ne s'était pas montré. Je me suis dit, bon, je savais qu'il serait là, je ne savais juste pas à quelle heure. La nuit est tombée et j'étais là. Tout était noir, alors je me suis dit, bon, d'accord, je ferais mieux de... Je savais comment tirer 3 coups dans les airs pour donner l'alerte si j'avais besoin d'aide ou autre. Alors je me suis dit, d'accord, pow, pow, pow! Au loin, très loin, j'ai entendu, pow, pow, pow! Je me suis dit, je ne sais pas, est-ce qu'on est censé répondre quand on fait ce genre de choses? Alors j'ai fait, pow, pow, pow! Et au loin, pow, pow, pow. Bon, mieux vaut m'en assurer. Alors j'ai fait pow, pow, pow. Et au loin, pow, pow, pow. Cela semblait vraiment très loin. Bon, d'accord, je me suis dit que c'était sûrement lui. Mais je savais qu'il finirait par arriver. Il faisait assez sombre. Et je n'avais ni lampe de poche ni rien. Je ne m'attendais pas à être dehors après la tombée de la nuit. Je me suis donc assis là. Le fait est que je savais qu'il reviendrait. Revenons à... Ah oh, vous voulez entendre la fin de l'histoire, hein? Ah, d'accord. Il faisait complètement noir. Ça faisait environ une heure qu'il faisait noir, et j'entends au loin... très loin, à l'horizon. Je me suis dit, je crois que c'est lui, je crois que c'est la Jeep. Petit à petit, dans une attente interminable, j'ai entendu le bruit de la Jeep qui franchissait les collines. Finalement, elle s'est arrêtée à côté de moi, je me lève, rien d'extraordinaire, du haut de mes 10 ans avec ma carabine. Je me lève, je m'approche de la Jeep, il ouvre la portière et me dit, « Tu veux que je t'emmène? » « Bien sûr! » Je monte donc dans la Jeep et il me dit, « Ouais, la Jeep est tombée en panne. » J'ai répondu, « D'accord, pas de problème. » Et on est rentré au camp. On est arrivé au camp, on est sorti de la Jeep, on s'est dirigé vers le feu et l'un des gars a dit, « Vous avez fait un peu de tir à la cible, hein? » Mon père a répondu, « Ouais, en quelque sorte. » Si cela me vient à l'esprit, c'est parce que je n'avais aucun doute qu'il reviendrait. N'est-ce pas ainsi qu'un enfant se comporte envers son père ou sa mère? Il ne soupçonnerait jamais que sa mère pourrait l'abandonner et ne jamais revenir, n'est-ce pas? C'est tellement naturel. Pourtant, en ce qui concerne Israël, ce que nous voyons, c'est qu'ils ont perdu vue de Dieu. Ils ne le connaissaient pas assez bien pour avoir confiance qu'il serait là. Et nous, qu'en est-il? Connaissons-nous Dieu suffisamment bien, comme nous le lisons ici, « Je suis l'Éternel qui use de bonté », pour être toujours convaincu que, quelle que soit l'épreuve que nous traversons, il est avec nous? En réalité, il nous permet de traverser cette épreuve pour notre bien, afin que nous apprenions, que nous soyons mis à l'épreuve, que nous soyons fortifiés dans notre muscle spirituel, pour ainsi dire, le caractère dont il sait que nous avons besoin. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il nous arrive, avec nous, pour nous, il est là. Il nous aime. Il prend soin de nous. Et s'il le faut, il nous sortira miraculeusement de cette situation, comme s'il nous sauvait d'un incendie. Il nous en sortira si c'est nécessaire. Sinon, c'est qu'il veut nous permettre d'apprendre et d'être fortifié à travers cela, quelle que soit la situation. Verset 24, « Je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est en cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. » Je trouve intéressant de considérer que ce que le premier homme et la première femme désiraient, au lieu de connaître Dieu, c'était de connaître le bien et le mal. Dans Genèse 3, verset 5, Satan a dit, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. En d'autres termes, être comme Dieu, contrairement à ce qu'il aurait dû désirer, c'est-à-dire être un avec Dieu, avoir la même pensée que Dieu. Je ne sais pas si j'avais déjà remarqué dans Ésaïe 14. Ésaïe 14. Ésaïe 14, verset 12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, Lucifer, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'Assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Ce qu'il répétait à Adam et Ève correspondait exactement à ce qu'il avait dit. Il n'a pas dit « Je connaîtrai Dieu, je consacrerai tous mes efforts à Dieu. » Il a dit « Je serai comme Dieu. » Il a dit à Adam et Ève, « Écoutez, si vous suiviez simplement mes conseils, laissez-moi être votre coach de vie et vous serez comme Dieu. » C'est le même sentiment. et au lieu d'avoir pour objectif d'être en harmonie avec Dieu et de le connaître véritablement, il les a séduits avec l'idée de remplacer Dieu. Dans notre cas, remplacer Dieu par notre sagesse, par notre connaissance, par notre point de vue, par notre opinion, plutôt que d'être dans une quête constante pour ne faire qu'un avec Dieu. Si nous choisissons la première option, alors nous sommes sur la mauvaise voie. Je trouve absolument fascinant que le verbe « connaître », qui est vraiment ce sur quoi nous nous concentrons ici, est utilisé dans son sens le plus intime, fasse référence à un homme et à une femme faisant qu'une seule chair. Nous voyons dans les premières pages de la Bible qu'Adam connut Ève, ce qui représente le lien humain le plus étroit possible. N'est-ce pas là une représentation de la relation entre un mari et une femme dans le mariage? Se connaître l'un l'autre, un processus qui ne s'achève jamais vraiment. Mais en tant que mari, nous soucions-nous de ce que nous ne connaissons pas de notre femme? Quelle est notre attitude face à ce que nous ne connaissons pas? Est-ce que l'ignorance est une bénédiction? Ou est-ce, vous savez quoi? Je ne sais pas, mais on ne peut pas comprendre les femmes. Ce n'est pas une bonne attitude à adopter si l'on veut vraiment avoir la paix chez soi. Si vous avez baissé les bras, où cela vous mène-t-il? Où cela vous mène-t-il? D'un autre côté, pensons-nous que nous la comprenons parfaitement et que nous pouvons donc cesser d'apprendre? Si vous pensez ainsi, je crains pour vous, car vous risquez d'avoir un réveil brutal. Avoir véritablement un mariage harmonieux signifie un apprentissage constant, et cela signifie un désir d'apprendre, une attitude qui consiste à vouloir mieux la connaître, car elle change, n'est-ce pas? Comme le temps. Elle change tout le temps, chaque jour, et nous aussi, n'est-ce pas? Si nous ne nous soucions pas de ce que nous ne savons pas, alors comment pouvons-nous grandir? Reportons-nous à Ézéchiel 20. Alors que j'achève mon sermon, jetons un coup d'œil à Ézéchiel 20. Parce que lorsque nous regardons vers l'avenir, nous voyons que ce même sentiment de connaître Dieu et un apprentissage continu à son sujet font partie de l'avenir. Dans Ézéchiel 20, Ézéchiel 20, verset 38. Je séparerai de vous les rebelles. Il s'agit ici de la restauration d'Israël. Vous pourrez le relire à partir du verset 33. Il dit ici au verset 38, « Je séparerai de vous les rebelles et ceux qui me sont infidèles. Je les tirerai du pays où ils sont étrangers, mais ils n'iront pas au pays d'Israël, et vous saurez que je suis l'Éternel. » Je vais résumer le restant dans Ézéchiel 20, verset 42. Comme nous le lisons dans ce passage, « Et vous saurez que je suis l'Éternel. » Et au verset 44, « Vous saurez que je suis l'Éternel quand j'irai avec vous par égard pour mon nom et nullement d'après votre conduite mauvaise. Car tel un bon Père, un Père aimant, Dieu est prêt à nous pardonner. Il est miséricordieux si nous nous tournons vers lui. » Si, comme nous le voyons ici, ce ne sont pas ceux qui sont déterminés à se rebeller, mais ceux qui veulent le connaître, qu'il prendra soin d'eux. Il les connaîtra. Ils le connaîtront. Et ce sera une relation harmonieuse et fructueuse. Et c'est ainsi que cela doit être. Allons à Hébreux 8. Hébreux chapitre 8. Hébreux 8, verset 7. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. C'est là que nous tournons notre regard vers l'avenir. Verset 8. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Verset 9. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi non plus je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Verset 10. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ce jour-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit. Ils me connaîtront. Je les appellerai, je leur donnerai mon esprit, j'agirai avec eux, afin qu'ils me connaissent véritablement par mes lois qu'ils intérioriseront. Je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son concitoyen, ni personne son frère en disant « Connais le Seigneur », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Quelle déclaration! Quelle déclaration! Pour revenir au présent, nous lisons dans 2 Corinthiens 13, versets 5 et 6, que nous devons nous examiner nous-mêmes pour savoir si nous sommes dans la foi. Examinez-vous vous-même, dit-il. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés? Nous pourrions nous poser cette même question concernant notre attitude vis-à-vis de la connaissance de Dieu et de mieux connaître Dieu. Et plus intimement, nous pourrions nous poser cette même question à l'approche des jours saints, à l'approche de la Pâque, n'est-ce pas? Demandons-nous à Dieu de nous aider à me voir tel que je suis, sans le vernis que nous appliquons lorsque nous nous regardons, lorsque nous regardons nos actions, lorsque nous regardons nos motivations? Encore et encore et encore. Nous pouvons vivre par procuration la vie des hommes et des femmes de la Bible alors qu'ils affrontaient volontairement, bien que parfois douloureusement, ce qu'ils ne connaissaient pas d'eux-mêmes. Nous pouvons lire ces récits et vivre avec eux ce défi de se connaître soi-même. David a appris à se connaître au fil de sa vie, d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Lorsque Nathan lui a raconté l'histoire de cet homme qui avait profité du pauvre et tout le reste, David ne s'est pas reconnu là-dedans, n'est-ce pas? Il n'a pas dit « Oh, tu parles de moi! » Il a dit « Qui est cet homme? Mettez-le à mort! » Nathan lui a répondu « C'est toi! » Et David s'est exclamé « Quoi? » Mais la différence avec David, c'est qu'il a dit « D'accord, je comprends. » C'est terrible. Je dois changer. On le voit chez Pierre quand il a dit « Je ne te renierai jamais ». Il l'a fait et il s'est exclamé « Qu'ai-je fait ?» Il s'est vu tel qu'il était. Il était prêt à se regarder en face et à découvrir qui il était, au lieu de se contenter de dire « Peu importe » ou « Je sais tout, ne me dis rien ». Moïse, Paul a appris des leçons difficiles sur lui-même, n'est-ce pas? Il a grandi. Dans Psaume 51, vous pouvez lire ce que David vivait, et ce Psaume 51 exprime l'attitude de David face à ce qu'il ignorait de lui-même. Il dit au verset 12, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Il demandait à Dieu de l'aider à mieux se connaître. Ce n'est pas quelqu'un qui s'en fiche. Ce n'est pas quelqu'un qui pense tout savoir. C'est quelqu'un qui veut savoir. Son attitude face à ce qu'il ne savait pas est vraiment celle que nous devons suivre. Le 31 mai 1911, l'immense coque du Titanic, le plus grand objet mobile construit par l'homme à l'époque, fut mis à l'eau depuis les cales de lancement et a pris le cours de la rivière Lagan à Belfast. Plus de 100 000 personnes assistèrent au lancement. Cela n'a pris qu'environ 1 minute et demie et tout s'est déroulé sans encombre. La coque fut remorquée jusqu'à un gigantesque dock d'armement où des milliers d'ouvriers passaient la majeure partie de l'année suivante à construire les ponts du navire, à aménager les somptueux intérieurs et à installer les 29 chaudières géantes qui alimenteraient ces deux machines à vapeur principales. Ce navire à la pointe de la technologie était doté d'un double fond et de 16 compartiments étanches équipés de portes étanches électriques, pouvant être actionnés individuellement ou simultanément à l'aide d'un interrupteur situé sur la passerelle. Il était, comme le déclare le magazine Shipbuilder de l'époque, pratiquement insubmersible. Du moins jusqu'à cette nuit fatidique du 14 avril 1912, lorsque son flanc tribord entra en collision avec un objet encore plus immense et inamovible, un iceberg. L'équipage ne savait pas ce qui se trouvait dans les eaux devant eux. Pourtant, le rapport du Bureau hydrographique américain, établi dans les jours qui ont suivi, lors des enquêtes menées, et vous pouvez le lire, vous pouvez même consulter une image du document original et les témoignages devant le Congrès, le Bureau hydrographique des États-Unis a rapporté qu'au moins 6 avertissements concernant la présence d'icebergs dans la région avaient été émis au cours de la journée précédente, dont l'un avait littéralement été relayé depuis un autre navire via la salle des radiocommunications du Titanic vers la station radio de Cap Race à Terre-Neuve, d'où il avait été transmis à Washington, D.C. Directement dans leur salle de radiocommunication, la liaison fut acheminée jusqu'à Washington, D.C. Voulons-nous savoir ce que nous ne savons pas? Pas seulement les avertissements, mais approfondir notre compréhension et notre appréciation de Dieu, de son plan, de sa pensée. Avons-nous une curiosité insatiable pour étudier la parole de Dieu, pour prier Dieu, lui demander de nous donner sa pensée, et pour réfléchir et méditer sur lui et sur ses voies, afin que nous puissions parvenir à une parfaite harmonie avec lui? Sommes-nous déterminés à nous comprendre nous-mêmes, nos forces, mais aussi les domaines dans lesquels nous devons progresser? Si tel est le cas, et si nous parvenons à conserver cet état d'esprit, cette attitude, alors nous mettons le cap sur une voie qui, avec l'aide de Dieu, nous mènera à la vie éternelle.